France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les personnes en situation de handicap veulent faire du sport. Le problème, c'est un problème d'accessibilité, c'est un problème que les clubs ne sont pas assez soutenus pour justement se développer et avoir une offre plus grande.
Alors grâce aux Jeux Paralympiques, j'espère qu'on va gommer ce regard comme quoi, quand on est handicapé, on ne peut pas faire grand-chose. En même temps, j'espère que ça va donner aussi un peu de force pour ceux qui sont dans cette situation de handicap, d'oser et de faire des choses.
C'est le rôle du professeur, de l'enseignant, d'amener la pratique au niveau de la personne en situation de handicap. Ils peuvent tout faire, je pense qu'on ne peut pas les limiter, il ne faut pas les limiter. Il faut leur faire confiance et leur dire « tu es capable ». Moi, j'en dis souvent « tu es capable ».
Ils font vibrer la France. Après les Jeux Olympiques, l'enthousiasme n'est pas retombé. Les para-athlètes ont pris la relève et rallumé la flamme. Leurs exploits sont suivis avec ferveur par des dizaines de millions de téléspectateurs. Et il y a finalement foule sur les gradins, quelles que soient les compétitions, natation, basket, tennis ou judo. L'incroyable finale de badminton entre Charles Noack et Kristen Combs a enflammé l'aréna Porte de la Chapelle. Au pied de la Tour Eiffel, l'équipe de Cécifoot a été encouragée par des hollas silencieuses. Le grand public est même devenu familier de la boccia, proche de la pétanque, grâce à l'émouvante Aurélie Aubert. Et après, une fois passée la cérémonie de clôture dimanche, quel héritage laisseront ces Jeux paralympiques de Paris 2024 ? Si la vue de ces champions médaillés fait naître des vocations, les jeunes et moins jeunes qui voudraient se lancer à leur tour en auront-ils l'opportunité ? Et sans parler de haut niveau, sera-t-il enfin possible de pratiquer le sport de son choix si l'on a des déficiences? Car aujourd'hui en France, seuls 1,4% des clubs sportifs se disent prêts à accueillir des personnes en situation de handicap. À quand le sport accessible à tous? C'est un reportage signé Flore Caron. Bonjour Flore.
Bonjour Aurélie.
La question qu'aborde votre reportage est complexe parce qu'il existe en réalité une multitude de handicaps.
C'est ça, et en fonction de chaque handicap, les difficultés ne vont pas forcément être les mêmes. Donc dans le parasport, il y a deux catégories. Le handisport, donc, qui concerne les handicaps moteurs ou sensoriels, donc c'est le basket fauteuil ou le cécifoot par exemple. Et il y a le sport adapté qui lui regroupe les handicaps mentaux et ou psychiques. Donc c'est ceux qu'on voit un petit peu moins et qui sont surtout beaucoup moins représentés là aux Jeux paralympiques. Donc pour donner un ordre d'idée, il n'y a que trois sports cette année dans cette catégorie. Donc il y a l'athlétisme, la natation et le tennis de table. Sans compter que les handicaps mentaux ne sont pas tous représentés. Les trisomiques, par exemple, en sont exclus. Mais aujourd'hui, que ce soit pour le parasport ou le handisport, l'accessibilité reste compliquée. Et vous l'avez rappelé d'ailleurs Aurélie avec ce chiffre de 1,4%. Donc moi, je suis allée rencontrer des associations, des entraîneurs, des sportifs, des bénévoles qui militent et qui agissent pour que la pratique sportive soit plus accessible et notamment le sport loisir, c'est-à-dire de pouvoir s'inscrire comme tout le monde dans le club de son quartier, de sa commune, pour simplement pratiquer une activité sportive. Et j'ai voulu donner la parole justement à ceux qu'on ne voit pas beaucoup.
Et le sociologue du sport, Sylvain Ferrez, est avec nous en direct de Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint de l'unité de recherche santé, éducation et situation de handicap à l'Université de Montpellier. Vous êtes accueilli dans le studio de France Bleu Héros. Et vous allez écouter avec nous le reportage de Flore Caron qui aborde pour commencer les difficultés rencontrées par les sportifs déficients visuels.
Moi je le connais bien le tour, mais après, ici ce qu'il faut faire bien attention, même toi Marius, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est des chaises. Ah, d'un tour sur l'autre, elles peuvent ne pas être au même endroit. Donc, Héloïse, n'hésite pas à lui dire.
Est-ce qu'il y a des racines ?
Il y a quelques racines, mais ça va. Tant que tu restes sur le chemin.
Racines, ça va, okay. Ouais, c'est pour ça que je te demande.
Nous sommes au jardin du Luxembourg, à Paris. Parmi les nombreux joggeurs aujourd'hui, les triathlètes de l'association A2 C'est Mieux. C'est une association qui s'adresse aux personnes aveugles et malvoyantes. Ils s'entraînent en binôme avec un guide.
Genre, t'as besoin qu'on se tienne ou non, juste l'un à côté de l'autre?
Un lien suffit, un lien de 1m50, 2m. Il faut toujours se parler en vrai, me dire attends, ça prend de la gauche, ça monte.
Et de là, on court. De toute façon, on commence lentement et on voit ce que ça donne.
Ok.
Ok.
On est parti? Marius? Let's go, Marius. Allez, hein? On discute, mais on court. Ok, donc là, c'est du sable pour l'instant. Tu me dis en termes de vitesse,
non, là, ça va,
tu me dis en termes de... C'est bon, tu t'en sors. Il y a des gens devant nous, on va passer sur la gauche. Hop, là, voilà. Là, t'es à la bonne distance du mur. Attention, il y a des petits graviers. Il y a une bouche d'égout. C'est un peu irrégulier, le sol, là. Peut-être ralentir un petit peu pour Salomé. ça descend légèrement. Et ensuite, on va changer de sol, on va être davantage sur du dur. Viens un peu plus vers moi. Attends, ralentis parce qu'il y a des gens. On tourne à gauche. Si tu veux qu'on ralentisse, tu dis, c'est toi qui gères l'allure.
Alors, je m'appelle Marius, j'ai 32 ans. Et je suis déficient visuel qui fait du sport aux associations à deux c'est mieux. Et alors, j'ai décidé de pratiquer le triathlon, qui est un sport qui en a l'air d'être très complet. Le vélo, la course à pied et la natation. Avant mon accident, j'étais pas du tout sportif, parce que je fumais un paquet par jour, donc vraiment c'est le sport et moi ça faisait deux. Mais c'est mon accident m'a permis de prendre conscience de l'importance du sport à sa santé. Et du coup, la pratique sportive qui est venue suite à cet accident, c'est là que j'ai demandé à l'hôpital, eux qui m'ont intégré avec Aller Vert, de c'est mieux.
Est-ce que, d'une certaine manière, le sport, ça vous a permis aussi de surmonter votre accident ?
Ah, largement. C'est que ça a été une source de motivation et même de fait de fixer des nouveaux objectifs. Vu qu'avoir été hospitalisé pendant un an et alité et hypnotique pendant un certain temps, ça m'a permis de rendre conscience à la valeur de mon corps et le fait de bouger mon corps. C'était au tout début des petites victoires. Le simple fait de marcher était une petite victoire. Et par la suite, oui, mon accident m'a rendu compte de la valeur du sport et de l'activité physique pour le corps.
Et donc, est-ce que c'est difficile de pratiquer une activité sportive quand on est déficient visuel ?
Alors, le plus dur est de trouver la structure. Les structures existent, il faut juste les trouver et les favoriser leur diffusion auprès du grand public et des handicapés. Parce qu'il y a plein de... Les handicapés de naissance baignent dans ce milieu depuis toujours. Et donc, peuvent connaître par leur parcours scolaire adapté ou de vie alors, des structures adaptées. Les handicapés sur le tard suite à l'accident ne connaissent pas. Et c'est là où les hôpitaux ou les services publics ont un rôle clé à jouer pour diffuser, accompagner les handicapés vers les structures et les clubs de sport.
Parce que vous n'êtes pas déficient visuel de naissance.
Non, c'est suite à un accident que j'ai de voie de circulation que j'ai eu en avril 2019.
Donc là, vous courez en binôme. Est-ce que vous pourriez courir tout seul ?
Alors, oui et non. Oui, je peux courir seul, mais c'est sur un tapis, dans une salle. Parce que je suis suffisamment autonome. Mon handicap est suffisamment léger pour que je puisse démarrer la machine moi-même. Mais dehors, c'est plus compliqué. Et les courses, je ne pourrais pas faire une course seule. Pour vous dire, la dernière fois que je l'ai essayé, c'était il y a un an. Et je me suis perdu et je n'ai pas fini. Parce que je n'ai pas vu les chemins, j'ai fini dans un bois, je n'ai pas compris.
Parfait.
Je n'ai pas vu revenir, oui. J'étais devant.
On a fait un petit demi-tour.
Je m'appelle Héloïse, je suis guide bénévole de course avec A2C Mieux depuis quelques mois maintenant. Mon rôle, c'est d'accompagner des personnes déficientes visuelles dans la pratique de la course à pied. En les guidant de manière adaptée selon leur niveau de course, leur niveau de déficience visuelle.
Est-ce qu'il y a un peu des règles quand on est binôme ? Est-ce qu'il ne faut pas être plus petit que la personne, plus grand que la personne ?
Alors il y a des cas idéaux, c'est-à-dire que dans l'idéal, c'est mieux que le guide ait un niveau de course plus élevé que la personne déficiente visuelle parce que, ben, il va falloir parler en même temps. Il ne faut pas que le guide soit en effort physique trop intense. Donc dans l'idéal, il faut qu'effectivement, il soit meilleur en course que la personne qui l'accompagne. Après, dans les faits, parfois, on est un petit peu en demande de guide, donc on fait comme on peut. Mais sinon, après, il n'y a pas de règles de taille ou de quoi que ce soit. C'est comment on se sent avec le binôme. Souvent, c'est des questions de longueur de foulée, de vitesse de course, puis d'affect aussi, suivant comment le courant passe. Moi, d'un point de vue personnel, je trouve ça super enrichissant. J'apprends vraiment plein de choses, puis c'est une super ambiance, vraiment. De manière générale, quand on met un pied dans le monde du handicap, on se rend compte de tout ce qui n'est pas adapté, et que parfois, juste les infrastructures ou même les gens, sans forcément être activement négatifs vis-à-vis des personnes en situation de handicap, sont juste complètement indifférentes et sans même qu'on se rende compte. Et petit à petit, une fois qu'on est sensibilisé, on se met à se rendre compte de plein de choses. Donc maintenant, je suis la personne qui dit à mes amis, mais imaginez, si là, il y avait une personne aveugle, elle pourrait même pas venir. Et s'il y avait une personne en fauteuil, il pourrait pas rentrer et aller aux toilettes. Donc voilà, je suis cette personne un petit peu maintenant.
Bon, eh ben allez.
Tu m'as vu s'arrêter.
T'as la partie un peu plus de monde.
Ouais.
Non, c'est bien, ça aussi.
C'est pour faire face à ces portes fermées que l'association a vu le jour il y a maintenant 6 ans, avec un mot d'ordre, l'inclusion. Son président, Ludovic Petit-Demange, est lui-même malvoyant. Il milite pour que les déficients visuels accèdent plus facilement à une pratique sportive.
Alors c'est vraiment très difficile quand on est malvoyant ou aveugle de faire du sport, tout simplement parce que de la course à pied, ça, on se dit pas, on se lève le matin, tiens, j'irai bien courir. Il faut trouver un guide, une personne qui va nous accompagner pour être en toute sécurité, aller dans un endroit où il n'y a pas trop d'obstacles. Donc non, c'est malheureusement toujours une épreuve, ça demande toute une organisation finalement de faire pourtant quelque chose qui est assez banal pour des voyants, qui est simplement d'aller même courir ou même d'aller à la piscine, je dirais, parce que les piscines parisiennes sont surchargées de monde et dans la ligne d'eau, les déficients visuels du coup sont très très peu autonomes. Il faut essayer de trouver des personnes pour les accompagner, pour cadrer, qui puissent en fait nager en toute sécurité.
Et c'est difficile de trouver des créneaux libres, même pour vous en tant qu'association ?
Alors pour nous, en tant qu'association, c'est vraiment une bataille de réussir à trouver des créneaux de piscine. Et pareil, pour avoir des créneaux de piste d'athlétisme, pour avoir, c'est très difficile. Pourtant, on a quand même déjà 6 ans d'existence. Et malheureusement, on a vraiment du mal à avoir des créneaux supplémentaires malgré nos demandes, nos sollicitations, parce qu'il y a beaucoup de pression de beaucoup de clubs. On nous dit souvent que voilà, les créneaux sont pleins et qu'il y a beaucoup d'autres clubs avec beaucoup plus d'adhérents que nous, parce que nous, quand on fait du handicap, du handisport, on est sur des petits nombres finalement. Eh bien, on nous dit qu'ils sont un peu prioritaires par rapport à nos quelques adhérents. Voilà, on a peu de poids malheureusement auprès de nos politiques, auprès des décideurs pour le moment. J'espère que les Jeux paralympiques vont nous permettre un petit peu de mettre le focus sur nos besoins, parce que le problème, c'est qu'une personne valide, bon, elle peut très bien aller dans un parc, elle peut très bien aller à un créneau de piscine à un autre moment, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, c'est vraiment crucial, c'est-à-dire qu'on leur permet de faire du sport. Sans ça, ils ne font tout simplement pas de sport. Donc effectivement, il y a enfin un stade de Cécifoot qui a été construit, qui se trouve en fait dans le stade Jules Noël, dans le 14e arrondissement. Donc on espère avoir des créneaux. Nous, à De C'est Mieux, on a une équipe de Cécifoot, donc on espère pouvoir l'utiliser. Pour l'instant, je dirais, tout le monde politique est un petit peu focalisé sur les Jeux. On espère qu'après les Jeux, eh bien, on va avoir accès à ces infrastructures et qu'on va pouvoir tout simplement faire du sport. Parce qu'il ne faut pas croire, les handis, c'est pas comme le monde valide. Ils ne vont pas avoir du sport à la télé et se dire « Bon, super, allez, on va s'inscrire dans les clubs. » Ça ne suffira pas. Les personnes en situation de handicap veulent faire du sport. Le problème, ce n'est pas un problème de motivation de leur part. C'est un problème d'accessibilité. Ils n'ont pas accès aux infrastructures. C'est un problème que les clubs ne sont pas assez soutenus pour justement se développer et avoir une offre plus grande. Mais les personnes en situation de handicap veulent faire du sport.
Est-ce que les Paralympiques, pour vous, ça représente un espoir ?
Alors, les Paralympiques, c'est un grand espoir. J'aurais peut-être pas créé l'association il y a 6-7 ans s'il n'y avait pas eu les JO en France. On s'est dit dès le départ, on espère profiter vraiment de l'engouement des JO, de la vitrine des Jeux olympiques et paralympiques pour permettre de se développer. On espère que l'engouement qui est là et qui a eu aux JO et qui j'espère continuer pendant les Paralympiques vont permettre de mettre vraiment le focus sur le sport pour les personnes en situation de handicap et que les bénévoles, que tout ce mouvement ne va pas s'arrêter. On espère vraiment que ça ne va pas s'arrêter avec les JO, mais que c'est au contraire le point de départ. Je dirais qu'on a un peu loupé. On aurait aimé que ces 5-6 dernières années, il y ait plus d'investissement dans le mouvement handisport, ce qu'on n'a pas vu, mais c'est pas grave. Maintenant, voilà, il y a un engouement dans la société. On espère que ça va se développer et que les gens vont venir vers les clubs pour donner de leur temps, de leur énergie. Et nous, on demande que ça. Et les personnes en situation de handicap ne demandent que ça, de faire du sport.
Au moment des Jeux Olympiques, on voit beaucoup d'athlètes professionnels, d'athlètes qui font de la compétition. Est-ce que finalement, on manque aussi d'images de personnes en situation de handicap qui font du sport juste pour leur loisir ?
Exactement, c'est très important parce que ce qu'ils ont fait pour les Jeux Paralympiques, et justement ça, c'est de montrer que la France est active sur l'handisport, finalement en voulant gagner plein de médailles, en pensant que le but c'est les médailles. Moi ce que je voudrais justement, c'est qu'on ne voit pas seulement cela, le but c'est pas seulement de faire des médailles aux Jeux, mais le but vraiment c'est qu'il y ait plus de licenciés.
Puis il y a peut-être une peur aussi de la part de certaines personnes en situation de handicap de faire du sport.
Exactement, parce que longtemps à l'école, malheureusement à l'éducation nationale, on
on dit qu'on prône l'inclusion, mais on n'y met pas assez les moyens. Il faut savoir que 80 à 90% des élèves déficients visuels sont tout simplement dispensés de sport. Parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment leur faire faire du sport. Quand il y a les camarades qui vont jouer au foot ou au basket, qu'est-ce qu'il va faire la personne aveugle à côté ? Ben rien, donc il est plus facile de lui dire « bah toi, tu vas être dispensé de sport, c'est pas grave pour toi, tu seras pas noté, c'est pas grave ». Mais si, c'est grave. Cette personne peut faire d'autres activités sportives, il faut juste y mettre un petit peu les moyens. Et du coup, cette personne s'est conditionnée toute sa vie, toute sa scolarité, tout simplement à ne pas faire du sport, comme si c'était normal, lui avec son handicap, il ne fait pas de sport. Et donc, lui-même, le déficient visuel, se dit « bah le sport, c'est pas pour moi, de toute façon ».
Pourtant, nombreux sont les clubs et les associations sportives qui peuvent accueillir les personnes en situation de handicap. L'enjeu est avant tout de faire le lien entre eux. Si Marius a pu rejoindre A2C Mieux, c'est grâce à l'ISPC, un institut qui se trouve dans les Hauts-de-Seine.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Donc je suis Arnaud Latrobe, je m'occupe du dispositif Aller Vers de l'unité Parasport qui appartient à l'ISPC, l'Institut de Santé Parasport Connecté, du professeur Genet. Et cet institut donc, est là virtuellement pour l'instant et sera créé en 2026 à Melun-les-Mureaux. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à l'hôpital de Garches pour aller visiter l'unité Parasport où nous accompagnons donc, des personnes handicapées physiques vers des clubs de sport. Donc là, nous allons rentrer dans l'unité Parasport. Voilà. Où nous avons donc différents bureaux. Nous avons des différents médecins qui sont là pour accompagner donc les personnes en situation de handicap, pour faire des contrôles médicaux. Vous avez tout un service de secrétariat à l'unité et tout un gros service avec des internes, des enseignants en activité physique adaptée, une kiné. Nous avons aussi un ergo qui est là pour améliorer le matériel de certaines personnes.
Et donc le but, c'est de voir quels sports peuvent pratiquer les personnes qui viennent vous voir.
Oui, tout à fait. Donc une fois qu'ils ont fait tous leurs contrôles, le test capacitaire fait par l'enseignant en activité physique adaptée va lui permettre de voir ou de sécuriser le choix du sport qu'il a fait en faisant un test aussi bien en salle qu'à l'extérieur dans les différents sports que lui il a choisi.
Et donc vous, c'est à la toute fin que vous intervenez. Quel est votre rôle ici ?
Mon rôle, je m'occupe du dispositif Aller Vers et c'est vraiment d'accompagner la personne pour lui trouver un club de sport au plus près de chez lui. Concrètement, nous avons une réunion une à deux fois par mois avec différentes personnes qui me sont présentées. Donc lors de cette réunion, je suis avec un médecin, avec un enseignant d'activité physique adaptée, qui sont là tous les deux pour me présenter la personne et discuter avec lui pour voir le sport qu'il a choisi, qu'il est en capacité de faire pour y trouver un club de sport.
Est-ce que c'est compliqué de trouver un club ?
Bonne question. Eh bien oui, c'est compliqué de trouver un club. Alors suivant les sports, ça peut aller plus ou moins vite. Mais sinon, la plupart du temps, oui, vous avez différents sites internet qu'il faut aller, il faut aller chercher. Beaucoup de recherches sur internet. Et à partir de là, c'est beaucoup de coups de téléphone à passer, discuter avec les gens, parler du projet, de ce projet d'accompagner les personnes en situation de handicap dans le club de sport qu'on a choisi. Et une fois que j'ai pu voir avec l'entraîneur, avec le directeur du club, on convient d'un essai avec la personne.
C'est presque du porte-à-porte, en fait.
Aujourd'hui, oui, c'est presque du porte-à-porte, parce que certes, il existe quelques fichiers ou quelques sites internet où il y a des clubs qui sont référencés, mais tous les clubs ne sont pas référencés, parce que certains clubs ont des sections handisport, comme ils disent, mais tout club peut accueillir une personne en situation de handicap. Il n'y a pas obligation d'avoir une section vraiment handisport. Tout club peut accueillir une personne et c'est ce que je fais la plupart du temps. Et une fois que, après différentes discussions, une fois que la personne est d'accord pour nous accompagner dans ce projet et de faire un essai, voir si aussi bien pour le club que pour lui, ça lui convient. Après, je laisse le patient, l'usager, continuer à pratiquer le sport dans le club.
C'est-à-dire que vous l'accompagnez à sa première séance pour voir si ça lui convient, pour voir si tout va bien.
Exactement, donc j'y accompagne et je suis là pour lever les freins, s'il y a des freins de la part du club ou de la part de l'usager pour la pratique du sport. Et je suis là pour aider et puis pour voir que tout se passe bien et les aider justement dans ce première séance de sport. La plupart des personnes que j'ai accompagnées, j'ai toujours des nouvelles derrière. Tout se passe bien pour beaucoup. Et donc, oui, donc différentes personnes qui ont réussi à faire la compétition et qui sont même classées au niveau national. Et c'est vraiment une belle réussite d'accompagnement d'une personne qui est passée d'un point zéro au niveau du sport pour arriver à un classement national.
Et est-ce que c'est difficile de trouver un club près de chez soi ? Combien de kilomètres en moyenne parcourent les personnes pour aller à leur activité sportive ?
Alors, suivant l'activité qu'ils veulent faire, oui, c'est pas évident. prends par exemple quelqu'un qui veut faire du basket fauteuil, il n'y a pas 36 000 clubs de basket fauteuil. Donc oui, il faudra circuler, il faudra bouger, il faudra prendre sa voiture, il faudra prendre le PAM, il faudra prendre les transports en commun, chose qui n'est pas toujours évidente en Île-de-France. Mais la plupart du temps, on arrive toujours à trouver quand même un club pas loin, sauf certains cas particuliers dans les disciplines assez, où il n'y a pas beaucoup de clubs justement référencés.
C'est-à-dire ?
Je prends par exemple des jeunes qui voulaient faire du foot malmarchand dans le département du 78, il n'y a qu'un seul club. Et donc, il suffit que la personne habite à l'autre bout du département et ne pourra jamais aller faire l'activité. À partir de là, on lui a fait changer de sport et maintenant, on lui a trouvé un nouveau sport et il s'éclate dans ce nouveau sport.
Est-ce qu'il y a des handicaps pour lesquels c'est encore plus difficile de trouver un club, une association ?
Alors nous, on accompagne toutes les personnes qui passent par l'ISPC, l'unité parasport. On va leur trouver un club. Donc c'est vrai qu'il y a déjà il y a toute une démarche, tout le processus d'avant qui va leur permettre qu'on puisse leur trouver un club. Mais je prends quelqu'un qui est une personne dans le civil, quoi, je dirais lambda, qui veut chercher un club, ça peut être difficile suivant la pathologie qu'il a, oui.
Là, on se dirige vers le gymnase Daniel Royer à Châlons-en-Champagne. C'est un gymnase qui est adapté aux personnes en situation de handicap mental et aux autistes. Et on va assister à un entraînement de basket.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, et vous allez nous poser des questions.
Voilà.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Ah, ben nous, on est des beaux sportifs.
Vestiaire à gauche, les garçons.
On change de basket ou...
Oui, c'est mieux quand même.
Quand on entre dans le gymnase, on voit un terrain de sport un peu particulier. Sur le sol, pas de lignes multicolores, à la place une surface en vert, bleu. Elle laisse apparaître des lignes lumineuses qui délimitent les différents terrains. Ce système de LED est piloté depuis une petite salle juste à côté.
Du coup, on va rentrer dans le local technique, où il y a le système informatique.
Loïc Burnet est éducateur sportif.
Tout le système, en fin de compte, c'est des vitres en verre et un système de LED qui est en dessous, qui permet, en fin de compte, avec le logiciel, de faire apparaître le terrain qu'on veut. Hop. J'appuie simplement sur le terrain de basket. Et là, le terrain de basket, à l'aide des lumières, qui sont en dessous, s'affiche sur le sol qui est neutre. Donc, en fin de compte, les pratiquants n'ont plus qu'une seule ligne, plus qu'un seul terrain, par rapport aux autres gymnases qui peuvent exister. Mais en fin de compte, ça permet de supprimer des prises d'informations qui n'ont pas lieu d'être.
C'est-à-dire que s'il y a trop d'informations par terre, ça peut empêcher les personnes de pratiquer leur activité sportive correctement.
Ça engrange des angoisses. Donc en fin de compte, on n'est pas là pour ça, justement, c'est pour libérer ces angoisses. Et d'avoir qu'une seule ligne permet aussi de capter d'autres informations qui sont importantes pour nous dans l'handicap, puisqu'après on reste centré sur le jeu. Et on n'a plus ces lignes parasitaires. On va commencer du coup l'entraînement. Oui. Avant de faire un petit match, on va commencer par faire des exercices.
Les exercices, ouais. C'est attraper la balle comme ça.
Non, un ballon par personne, il faudra dribbler et marquer le au panier. D'accord. Ok. Ouais. Donc un groupe sur le plot bleu, un groupe au plot rouge. Allez go. Allez Jimmy.
Ouais.
Il va. C'est bon Robin.
On vient d'avancer la balle.
Chacun, il faut dribbler. Ouais. Dribbler, c'est. Ouais. Je pousse fort le ballon par terre et on y va, d'accord ? Les personnes que j'accompagne aujourd'hui sont des adultes en situation de handicap, en déficience intellectuelle, aux troubles psychiques. Et puis on fait des activités sportives, bien sûr, pour aller sur le socialement, qui est hyper important, puisque certains n'ont pas non plus la notion du langage. Donc en fin de compte, c'est vraiment sur des expressions corporelles qu'on peut voir leur comportement et sur la gestion des émotions. Puisque en fin de compte, là, ils sont vraiment acteurs. On ne peut pas... tout guider quand on fait du sport. Donc du coup, il y a un libre choix de décision et qui est très très intéressant à exploiter aussi, c'est très enrichissant.
Est-ce que pour vous, les Paralympiques peuvent impulser une certaine évolution ? En tout cas, est-ce que c'est un espoir ?
Alors grâce aux Jeux Paralympiques, en fin de compte, j'espère qu'on va gommer ce regard comme quoi
Quand on est handicapé, on ne peut pas faire grand-chose. En même temps, j'espère que ça va donner aussi un peu de force pour ceux qui sont dans cette situation de handicap, d'oser et de faire des choses. Ça, je pense que c'est le plus gros moteur, hein. C'est qu'en fin de compte, de ne pas avoir peur et de prouver qu'on peut faire plein de choses. Mais on reprend même les personnes qui sont aussi en sédentarité depuis un certain temps, qui ont peur de reprendre une pratique sportive, parce que bah ouais, c'est quand même assez dur, et le regard de l'autre est dur. Mais en fin de compte, de ne pas avoir peur d'aller dans les clubs et de dire bah, « mon projet, c'est juste ça ». Et du coup, après, il y a toujours une manière d'approfondir et de mettre en place des activités pour ce type de personnes.
Le gymnase Daniel Royer a été construit il y a seulement 3 ans. Il appartient à l'ACPEI, une association qui gère des établissements pour autistes et personnes en situation de handicap mental. Coût total de la structure, 1,5 million d'euros, financé avec l'aide de partenaires publics et privés. L'idée de ce gymnase est aussi de favoriser la mixité des publics. C'est ce que nous explique Majid Farahi, directeur général de l'ACPEI.
Aujourd'hui, l'ensemble des établissements de notre association bénéficient de ce gymnase. Donc, ils ont des créneaux horaires dans lesquels ils viennent y participer. Participent aussi, surtout, donc, l'établissement dans lequel le gymnase est installé, c'est-à-dire Institut médico-éducatif. Les enfants viennent régulièrement ici pratiquer du sport. Il y a 2 profs de sport qui les accompagnent. Également, donc, les écoles environnantes. Donc, c'est ce qu'on avait écrit en 2015, à savoir, on voudrait partager ce gymnase gracieusement avec notre environnement immédiat, c'est-à-dire les écoles. L'idée, c'était donc de démarrer, de mettre quelque chose en place sur l'inclusion inversée. Et donc, de fait, les élèves des écoles viennent ici, ils font du sport dans leur classe, comme s'ils allaient dans un autre gymnase, mais aussi ils ont des temps à partager, à faire du sport avec des enfants de l'IME. Et c'est là la richesse, c'est que les appréhensions, les peurs, les craintes, les jugements, le regard, etc., disparaît quand on est enfant. Et donc, quand on grandit, bah, les personnes handicapées ne font pas peur, donc ça leur fera pas peur. Donc, ils deviennent copains, ils se font des amis entre eux, etc. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que c'est relier les deux mondes qui sont parfois séparés. Et ben, les deux mondes, on les réunit ici à partir de l'inclusion inversée.
Bien sûr, c'est d'avancer et de marquer le panier
chez les autres.
D'accord. Ça veut dire si on avance avec le ballon, on peut passer là-bas et puis tirer de là-bas, du trait.
Comme tu veux, Sylvain.
Mais le ballon, on peut le mettre comme ça, en l'air.
Ouais,
non, je vais y arriver. Allez, je suis prêt, Loïc.
Ah, ça va y aller, ça va pas rigoler.
Vous aimez bien le basket ?
Oui, moi j'adore. Les joueurs à Suisse, j'ai déjà battu beaucoup d'équipes. Ils m'ont fait plus fort que niveau de basket.
Vous avez marqué combien de paniers ?
10. Je joue la remise en jeu, moi.
Vous jouez souvent au basket ?
Oui, toujours. Je joue à Saint-Martin avec Loïc et puis je joue en compétition.
Oui, et moi, j'ai repris aujourd'hui. J'ai été arrêté un bon petit moment. Pour mon dos, j'avais mal. Maintenant, ça va tout seul.
Vous aimez bien faire du basket ?
Ah, j'adore. Tous les sports, j'adore. Que ce soit au javelot, la marche, la course, les 100 mètres, tout ça, j'adore. Jusqu'à temps que je m'écroulerai par terre, comme j'ai dit à Loïc.
Voilà. Vous vous appelez comment ?
Pierre Langlais, moi.
Et vous ?
Moi, je m'appelle Sylvain. Et je fais plusieurs de sports disciplines parce que moi, je joue au foot, je joue au basket. Je fais de la ski avec Loïc tous les lundis, je fais du 100 mètres, du relais.
Nous, on fait de la pétanque aussi.
Et il me semble que dans quelques jours, vous allez à Paris ?
Oui, c'est ça. On va voir les sportifs, les champions.
C'est-à-dire ?
On va les encourager.
Vous allez voir qui ?
Les Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques.
On était samedi à la Flair Olympique. Ils nous ont donné des casquettes. Comme pour, on a eu des casquettes rouges, Flair Olympique. On a porté la flamme comme ça. Et on a fait le tour.
Vous avez été porteur de la flamme olympique ?
Oui. Nous, on était porteur. Et puis, ils nous ont remis un petit trophée et puis un petit livret. Et puis des photos. On a pris des photos. Tout ça.
Et donc, vous allez voir les Jeux Paralympiques dans quelques jours ?
Dans quelques jours ? Ouais, c'est bien.
Bien.
quoi, c'est pas bien, c'est toujours bien les vacances.
Ah, mais t'es notre animateur.
Ah, l'animateur. Oh, oui, moi aussi, tu m'as manqué, madame.
Bah oui.
Content de vous voir, mes petits choux.
Oui.
Tout le monde est prêt?
Oui.
Oui. Naomi, tu lances le salut?
Ouais.
Et on salue. Très, très bien. Alors aujourd'hui, les petits choux, on va se remettre dans le judo tout doucement. Vous avez passé de bonnes vacances?
Oui.
Allez, on va se mettre à trottiner un petit peu, on court un tout petit peu.
Marie-Lise Parfait, professeur de judo, 54 ans, professeur à Chelles et Montfermeil et Villevaudet. Alors là, on est dans un foyer médicalisé à Montfermeil où j'enseigne le judo à des personnes en situation de handicap. Ce sont essentiellement des trisomiques et puis des autistes.
Comment vous avez commencé à vous intéresser à ce type de public ?
De façon peu ordinaire, en fait, j'ai un jeune résident qui est venu dans mon club à Chelles. Il voulait faire du judo, il avait 19 ans à l'époque. Et il a été tout de suite inclus avec le cours valide. Et puis ensuite, le Covid est arrivé, on a été confinés, puis déconfinés. Et à ce moment-là, le tuteur est venu me voir et me demander si je pouvais, moi, dans ce cas-là, intégrer le foyer où se trouvait ce jeune pour enseigner le judo à un groupe un peu plus nombreux. Donc j'ai dit oui. Et donc je suis passée d'un résident à, au départ, 6 résidents. Et on a donc fait du judo dans une salle. On n'avait pas de tapis encore, donc juste du judo debout, sans chute. Et ensuite, on a fait un partenariat avec la Fédération française de judo. On a eu des tapis. Et puis, je suis passée de 5 résidents à 10 résidents. Et maintenant, j'en ai 20.
Et donc, ces résidents font partie de votre club ?
Ils sont tous licenciés au judo club de Chelles. Effectivement, c'est une obligation. Il faut que, si on pratique le judo, il faut une adhésion fédérale. Donc oui, ils font tous partie de ce même club.
Est-ce qu'auparavant, vous aviez déjà entraîné des personnes en situation de handicap ?
Oui, des petits. Il y a très très longtemps, j'étais encore une jeune professeure, j'avais un hémiplégique de 7 ans qui est resté 2-3 mois, il était directement intégré dans le club, mais c'était compliqué pour le gérer. Moi, je n'étais pas formée pour enseigner, je n'avais pas du tout les armes pour pouvoir aborder ce handicap. Donc je faisais beaucoup de travail au sol avec cet enfant parce qu'il marchait difficilement. Le judo est un sport qui se fait debout essentiellement. C'était donc sa difficulté pour lui, donc toujours est-il, il n'a pas continué. Il a fait quelques mois et ensuite, on l'a plus vu au club. Donc ça montre bien la difficulté d'accueil des personnes en situation de handicap. Bien trouver le bon club par rapport au handicap ou par rapport à ce qu'on recherche à travers ce handicap. Et là, c'était bien le problème majeur.
Est-ce que c'est difficile de pratiquer une activité sportive quand on est une personne en situation de handicap mental ?
Je pense que c'est pas difficile. Encore une fois, c'est le rôle du professeur, de l'enseignant, d'amener la pratique au niveau de la personne en situation de handicap. Si on démarre avec des étapes trop fortes, avec un niveau super élevé, bien évidemment, ça fonctionnera pas. Il arrêtera, il se blessera, ou alors il va se fermer. Il faut aborder les choses toujours à la base, quoi. Rien n'est difficile pour eux. Il faut juste les contourner un petit peu, les rassurer, et puis démarrer avec la base. Après, ils ont tout en main. Ils peuvent tout faire. Je pense qu'on ne peut pas les limiter. Il ne faut pas les limiter. Il faut leur faire confiance et leur dire « tu es capable ». Moi, je leur dis souvent « tu es capable ». Ce n'est pas vrai, tu es capable. Et souvent, ils me disent « j'arrive pas ». Je leur dis toujours « c'est pas vrai ». Tout le temps. Je ne les écoute pas. Je dis « c'est pas vrai ». C'est pas vrai, tu es capable. Et après, il faut leur montrer qu'ils sont capables. Il faut juste déverrouiller ce blocage qu'ils ont en eux. Et c'est là le rôle de l'enseignant, quoi. Et la compétence de l'enseignant.
Vous avez votre copain, ça y est, qui c'est qui est celui du coup ? Vous savez votre partenaire. Prêt ? Attention la tête, Louloute. Attention la tête.
Récemment, Marie-Lyne Parfait a ressenti le besoin de se former, d'être plus armée face au handicap. En mai dernier, elle a intégré le programme Club Inclusif en Seine-et-Marne.
C'est un dispositif qu'a mis en place le département et le comité paralympique sportif français.
Léonard Francavilla, conseiller technique du comité départemental sport adapté.
Ça permet aux clubs et aux associations sportives du département de profiter d'un suivi donc de 6 mois et de profiter de 2 journées, une partie théorie, une partie pratique, pour sensibiliser au handicap, handicap mental et psychique, donc sport adapté, et la partie aussi handisport, handicap moteur et sensoriel. Donc voilà, les deux comités, on est réunis sur ce dispositif et chacun gère sa partie. Donc là, on est dans la phase d'accompagnement où je prends contact avec les clubs et les associations sportives pour voir avec eux comment mettre en place des séances et accompagner au mieux les personnes en situation de handicap mental et psychique. Le dispositif Club Inclusif est proposé à l'ensemble des associations sportives et des clubs au sein du territoire français. C'est un dispositif qui est national, Et on a remarqué que les clubs qui étaient présents à ce dispositif sont les clubs qui sont déjà un petit peu sensibilisés au handicap, que ce soit handisport ou sport adapté, et qui veulent avoir des billes pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Les clubs qui n'accueillent pas ou qui sont moins touchés par le handicap ne s'inscrivent pas dans ce dispositif et peut-être ne comprennent pas à quoi va servir ce dispositif ou les enjeux qui se jouent derrière. Mais c'est un constat. Moi, enfin, les séances que j'ai faites avec les éducateurs sportifs et les encadrants, ils avaient tous une connaissance du handicap. Ils avaient tous déjà plus ou moins encadré une personne en situation de handicap. Voilà, et après, à l'extérieur, j'ai pu, moi, grâce à mon métier, parler avec des clubs qui, eux, n'accueillent pas du tout de personnes en situation de handicap et ne voient pas l'intérêt de participer à ce dispositif.
Est-ce que le manque de formation des entraîneurs, c'est un frein ?
Clairement, oui, c'est le frein principal pour l'accueil des personnes en situation de handicap, pour les handicaps au niveau du sport adapté, donc handicap mental et psychique. C'est ce qui ressort en premier quand on présente notre projet de vouloir ouvrir une session dans un club. C'est le manque de formation d'éducateurs sportifs, le manque de formation spécifique pour le public qu'on accueille, parce que nous, c'est voilà, des handicaps qui peuvent faire peur, des troubles du comportement. C'est vraiment des handicaps, quelquefois, qui ne sont pas faciles à gérer. C'est le premier critère de refus, on va dire, d'ouvrir une section sport adapté pour les clubs.
Quelles sont les difficultés spécifiques aux handicaps mentaux, qu'on appelle d'ailleurs aussi des handicaps invisibles ?
Nous, on a la chance, j'ai envie de dire, ça je le dis souvent, c'est qu'au niveau des infrastructures sportives, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'infrastructures sportives adaptées. On n'a pas besoin de rampes, on n'a pas besoin de... Enfin, pour la plupart, bien sûr, il y en a qui sont en fauteuil roulant, qui ont besoin d'adaptation, mais il n'y a pas de frein au niveau des infrastructures sportives. Il faut juste une adaptation des règles, des consignes, du terrain de jeu. Mais tous les clubs en France et tous les clubs dans le monde, je pense, sont capables de s'adapter pour ces personnes.
Donc finalement, c'est une question de volonté avant tout.
C'est une question de volonté, une question de formation et de sensibilisation des encadrants, des dirigeants des clubs. Voilà, enfin, il y en a plein qui savent pas tout ça et que c'est, enfin, je vais dire simple d'accompagner. Parce qu'en effet, enfin, je trouve que c'est simple, mettre que des plots rouges ou que des plots bleus, ça simplifie les choses et rien qu'avec ça, voilà, on sait qu'on peut accompagner les personnes.
Donc on peut dire que la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental relève avant tout presque de la chance, en fait.
Ça, tout à fait, ça relève de la chance d'avoir des personnes comme Marilyn qui souhaitent partager leurs connaissances, leur savoir, leur sport, leur personnalité. Mais on voit, et là c'est le côté aussi un peu pas sombre de la chose, mais si cette personne arrête, on sent que derrière le relais n'est pas pris. On voit que souvent, quand la personne arrête, eh ben, l'activité sportive voilà, elle disparaît. Et...
Oui, il faut tout recommencer à zéro, en fait. Hein. Quand effectivement le professeur a décidé d'arrêter, pour quelque raison que ce soit, on repart à zéro. Il faut rechercher quelqu'un si on n'a pas formé avant. Et comme dit Léo, former pendant qu'on dirige des séances, c'est impossible. Quoi. Donc, quelle est la complexité et la difficulté effectivement du suivi derrière quoi.
Ici, en Seine-et-Marne, combien de clubs accueillent des personnes en situation de handicap mental ?
Alors sur la situation en Seine-et-Marne, on compte à peu près 2500 clubs et associations sportives et seulement 250 accueillent des personnes en situation de handicap, handisport, sport adapté, mélangé. Hein, donc ça représente pas grand-chose. Du coup, en Seine-et-Marne, on a organisé deux sessions donc dispositif club inclusif, une en septembre 2023, donc avec une quinzaine de clubs, seulement un et a terminé les 6 mois d'accompagnement en mettant en place son projet sport adapté. Et là, pour la deuxième session, donc, qui a commencé en mai 2024, on est dans la phase d'accompagnement des 6 mois, donc on verra à la fin de ces 6 mois si les clubs ont réussi à mettre en place leur projet.
Est-ce que pour vous, les Paralympiques représentent un espoir ?
Les Paralympiques, bien sûr que ça représente un espoir. Hein. C'est à Paris, c'est un événement qui est mondial. Nous, au niveau du sport adapté, on a la chance d'avoir un athlète qui est champion paralympique, donc qui remet son titre en jeu, qui a porté la flamme, donc qui a allumé la vasque avec 4 autres athlètes paralympiques. Et bien sûr que c'est un espoir pour tout le monde, mais il est mis en avant beaucoup de handicaps moteurs, sensoriels. Voilà, on a très peu, nous, au niveau de la France, on a 6 athlètes sport adapté, donc 6 athlètes avec une déficience intellectuelle qui représentent le sport adapté, donc c'est très peu. Donc je pense qu'au niveau de notre fédération, les familles et les parents et les entraîneurs ne vont pas voir ce côté enthousiasmant, on va dire, pour le type de handicap, mais voilà, que ce soit en France, moi en tout cas, pour le comité départemental, je surfe sur la vague des Paralympiques pour parler du handicap et pour redynamiser tout ça.
Oh, c'est pas mal, ça. Hop, le câlin à Marie.
C'est mon bébé, Marie.
Dès qu'elle me fait le câlin, Christelle, je sors du câlin. Je la fais rouler et je m'installe sur un câlin à mon tour. Dès qu'elle frappe...
Quel est votre meilleur souvenir ?
Est-ce que vous êtes prêts ?
C'est de voir, lors d'une démonstration de judo en fin de saison ici, il y a 3 ans de ça, des parents qui ont vu leurs enfants adultes, hein, qui étaient déjà adultes, hein, pratiquer le judo, et les parents avec des yeux écarquillés se dire « mais mon fils est capable de faire ça ?» Les yeux aux larmes. Voilà, les parents qui ne sont pas là pour voir leurs enfants pratiquer. Hein. Chez les petits, les parents restent là pour en général, mais ici, non, il n'y a pas de public. Et quand on fait cette démo et pour leur dire « voilà, on a préparé une chorégraphie de technique », et puis ils suivent tout et ils font chuter, ils chutent, ils font des vraies techniques de judo. Et les gens sont là « waouh, ils savent faire ça, quoi !» Et c'est ça, c'est une belle victoire. Et puis après, quand on les amène en compétition, alors là... On se dit, mais il y a encore 4 ans de ça, le judo c'est quoi ? Je ne connais pas. Et 4 ans plus tard, ils font un championnat de France et ils sont 3e au championnat de France. Donc ça, c'est une vraie victoire.
Maté !
It's been in my head for so long after. They told me these words I can't remember. It keeps coming on and on. They kept beating on and on my face. If they keep telling I'm a liar, baby, it's not my fault, I built these layers. I can meet myself.
My Ability, interprété par Lucky Love, place de la Concorde lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris. C'était un moment fort du spectacle conçu par Thomas Joly. À quand le sport accessible à tous ? Un reportage de Flore Caron avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Et le sociologue du sport Sylvain Ferrez est avec nous depuis Montpellier pour compléter ce reportage. Alors le succès des Jeux paralympiques dépasse hein, les espérances du comité d'organisation. Est-ce qu'on peut pour autant miser sur un effet jeu durable ? Qu'en pensez-vous, Sylvain Ferrez, vous qui avez aussi observé les précédentes éditions ?
Je pense qu'il faut être prudent et réaliste, être conscient de toutes les choses qu'on a entendues dans ces reportages et savoir... J'allais dire trier entre ce que ces jeux permettent, ce qu'ils ont permis en termes d'images montrées, ce qu'ils ont permis en termes de diffusion de représentations et de discours nouveaux, et en même temps ce que l'ensemble de ces choses ne pourront pas faire de manière magique, j'allais dire, pour transformer l'ensemble des pratiques, l'ensemble des activités, l'ensemble des initiatives qui sont ici présentées et pour lesquelles il faudra, au-delà de ces discours, travailler un peu, réfléchir un peu, mettre des moyens et aller un peu plus loin, j'allais dire, que des discours ou que des images, aussi sympathiques et belles soient-elles.
Alors vous parliez des images, on peut se dire que les jeux contribuent à une évolution du regard sur les handicaps. On s'habitue à voir des corps différents, on se familiarise avec eux. On admire ces athlètes qui se dépassent avec le risque d'en faire des super-héros et de tomber dans la caricature. En tout cas, on se dit qu'ils sont capables. C'est déjà quelque chose d'important.
Oui, on se dit qu'ils sont autrement capables. On se dit aussi, surtout, que les environnements qui sont créés sont essentiels et que ces gens-là qui seraient mis d'une certaine manière face à leurs incapacités dans certains environnements sportifs habituels, eh ben dans d'autres environnements sportifs, en fait, peuvent déployer les capacités qu'ils ont et qui peuvent se déployer jusqu'à un niveau remarquable. Donc, au-delà des individus, ces jeux, d'une certaine manière, nous montrent comment nos performances et simplement nos capacités à performer dépendent des environnements sociaux, des règles du jeu et de la possibilité avant cela de s'entraîner dans des conditions et dans des épreuves simplement qui sont accessibles parce qu'elles sont adaptées à la singularité de ces corps dont vous avez parlé.
Alors, les organisateurs des Jeux paralympiques ont beaucoup mis en avant la notion d'héritage. Est-ce que ces discours ont déjà été suivis d'un certain nombre d'actes ?
Alors évidemment, ces discours sont associés à un certain nombre d'actes, mais sont toujours, j'allais dire, un peu plus visibles et un peu plus forts que la déclinaison en fait des actes réels et aussi de la complexité des problèmes, parce que pour agir, il faut savoir et comprendre énormément de choses qui sont, on l'a vu là, très très compliquées. Les problématiques sont pas les mêmes suivant les déficiences, même pour une même déficience. Moi, je retiens ce premier reportage où est pointé tout de suite la différence entre le fait d'être mal voyant ou non-voyant de naissance et de bien connaître l'univers finalement de la déficience intellectuelle, les associations existantes, etc., ou suite à un accident. Donc vous voyez, même dans la même déficience, finalement, les situations des gens vont être très très différentes. Et je pense que là, les choses qui sont proposées sont, j'allais dire, pas forcément à la hauteur parfois du défi énorme que de toute façon un événement ne pourra pas relever à lui-même, puisque c'est un défi des politiques publiques en général et c'est un défi qui s'impose à nous tous. Donc oui, des choses ont été mises en place. On en a vu d'ailleurs là dans le reportage, hein, les clubs par exemple inclusifs ou para-accueillants ont été déployés dans le cadre d'une stratégie assez importante qui relevait, j'allais dire, de l'expérience et des éditions des Jeux paralympiques précédents.
Alors il y a quand même eu donc quelques 3000 clubs inclusifs qui ont été mis en place.
Oui, c'était une stratégie active avec une cible et un objectif de mettre en place 3000 clubs para-accueillants dans un réseau de clubs inclusifs avec une labellisation associée à une formation, et on a atteint cette cible effectivement. Alors après, évidemment, ça a été dit dans le reportage, dans quelles conditions se sont passées les formations, quel est le volume d'heures de formation proposées, une vingtaine d'heures pour un dirigeant et pour un encadrant sportif. Est-ce que ces clubs para-accueillants vont être en capacité d'accueillir toutes les personnes qui se retourneront vers eux suite au jeu? Dans quelle mesure ces clubs vont se retrouver, même quand ils auront été formés, face à l'impossibilité d'accueillir certains publics et des problèmes qu'ils n'auront pas envisagés? Autrement dit, comment ce dispositif, au-delà de sa mise en place à minima, va être suivi et accompagné? Là, il y a un enjeu qui pour l'instant n'a pas été totalement, j'allais dire, traité, et qui est un enjeu de politique publique sur le sport inclusif à long terme.
Oui, il n'y a pas eu d'engagement sur la durée.
Il n'y a pas eu d'engagement, ni même de choses prévues. On a été soucieux de faire quelque chose dans le temps court, parce qu'on savait, notamment depuis les Jeux de Londres, que l'engouement suscité par les Jeux ne suffisait pas à assurer les conditions d'accueil par la suite, et qu'il était catastrophique, des milliers de gens appellent pour pratiquer et qu'on n'ait rien à leur proposer. C'était même d'une certaine manière contre-productif, c'était faire d'une certaine manière la démonstration que les discours de demande de participation étaient faux, étaient d'une certaine manière falsifiés et correspondaient à une injonction, à quelque chose d'impossible. Et donc on a essayé de faire au mieux, mais j'allais dire en pensant le temps de l'événement de manière très ponctuelle et en n'inscrivant pas ça dans une stratégie de long terme et de politique publique.
Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut mobiliser davantage la recherche pour être en mesure de tirer des leçons de ces dispositifs mis en place.
Oui, parce que tout cela reste fragile. Vous voyez bien que les situations diverses, la question de la déficience intellectuelle, qui elle-même recouvre des spectres très 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 différents d'incapacité. On a parlé de la trisomie. La trisomie, par exemple, est un exemple caractéristique. Les trisomiques ne sont pas à proprement parler exclus des Jeux Olympiques, mais il se trouve qu'ils n'arrivent pas à faire les minima dans les catégories ou dans les classes qui correspondent à leur déficience intellectuelle. Et ce pourquoi ? Parce que cette maladie génétique n'entraîne pas que de la déficience intellectuelle, mais aussi un surhandicap physique. Et que donc, il faudrait faire une classe qui n'existe pas, spécifique à eux, qui essaie de comprendre quel est l'effet à la fois de la déficience intellectuelle et de leur surhandicap physique sur leur performance. Vous voyez. Et en fait, on est très peu avancé sur ces questions-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et il est fort à parier que les jeux vont susciter un engouement et un désir qui va poser des questions qu'on ignore aujourd'hui, qui va révéler des obstacles qu'on ne connaît pas. Et au fur et à mesure que ces publics viendront vers ces clubs, ce sont de nouvelles questions et de nouveaux défis qui se poseront à nos sociétés, parce que ces questions-là sont très compliquées.
Alors effectivement, vous soulignez des besoins parfois très spécifiques. On parle donc de besoins de minorités à chaque fois. D'ailleurs, je crois que c'est Ludovic Petit-Démange de l'association A2C Mieux qui dit « nous, on n'est pas assez nombreux pour peser et donc d'autres nous passent devant ». Mais est-ce que les associations pourraient unir leurs forces, parler d'une seule voix pour obtenir justement plus de moyens et puis peut-être obtenir des adaptations un peu plus génériques, entre guillemets, mais qui pourraient profiter à tous?
Elles le font d'une certaine manière. Les Jeux paralympiques sont d'une certaine manière l'alliance de déficiences et d'incapacités très différentes pour porter la voix de la diversité, de la nécessité d'adapter la pratique aux besoins de chacun, d'où cette diversité d'épreuves et de classes de pratiquants dans les épreuves. Cela dit, vous voyez que l'effet est limité puisqu'on parle souvent du handicap en général, d'ailleurs en caractérisant les personnes plutôt que les situations dans lesquelles ils sont, avec le vocable « personne en situation de handicap » qui ne dit rien sur la spécificité des personnes. La réalité, c'est que les personnes, elles ont des déficiences visuelles, elles ont des déficiences auditives pour les gens qui ne sont pas pour le coup aux paralympiques et les personnes sourdes et malentendantes, elles ont des déficiences intellectuelles, Et en fait ça, on sous le vocable handicap, on ne le dit pas. Alors vous voyez, le regroupement permet à chacun d'une certaine manière de se rassembler pour demander une transformation, mais en même temps, il tente à mettre la thématique du handicap comme une thématique homogène au centre des débats, alors même qu'il faudrait avoir une culture de la différence et de la diversité qui nous oblige justement à multiplier nos connaissances et à réfléchir davantage parce que cette diversité est un défi et qu'on ne sait pas très bien comment faire face à elle.
Alors c'est vrai que moi j'ai bien aimé cette expression d'inclusion inversée avec ce gymnase à Châlons-en-Champagne qui accueille aussi les élèves des écoles environnantes avec cette idée de concevoir des sites sportifs plus inclusifs et accueillants. Alors même si effectivement il y a des besoins très spécifiques, est-ce que c'est quand même une piste intéressante ?
Oui, l'expérimentation a été très très intéressante parce que visiblement, ce gymnase avait été créé en lien avec un IME, un institut médico-éducatif. Oui. Et donc, on aurait pu penser que finalement, cette structure était pensée justement pour un public singulier. Or, la volonté des professionnels de cet institut a été justement d'en faire un lieu de partage. Et ça, je pense que c'est très riche, puisque évidemment qu'il peut y avoir des besoins de ne pas être en inclusion scolaire, mais d'avoir une éducation spécialisée, de séparer les gens momentanément pour qu'ils puissent être dans des conditions d'apprentissage. Mais cette séparation momentanée ne doit pas devenir une ségrégation de tous les moments. Et évidemment, faire de ce lieu un lieu d'abord qui servent à plus que cet institut médico-éducatif et qui d'une certaine manière puisse être plus largement utilisé et ainsi justifier le coût de l'investissement, mais aussi qui permettent des rencontres de la mixité et de l'inclusion qui partent d'une initiative d'un IME. Je trouve ça effectivement très malin et très intelligent et évidemment très instructif pour toutes les personnes qui n'ont pas d'incapacité ou de déficience intellectuelle, qui vont dans cet espace-là d'une certaine manière croiser, mieux comprendre la différence, pouvoir s'y identifier et se rendre compte qu'il n'y a pas eux et nous, il n'y a pas « ils » comme un groupe séparé, mais qu'en fait, il y a des gens qui peuvent partager leur existence dans des espaces où ils sont chacun différents, reconnus dans leur différence et en même temps pouvant pratiquer.
Et c'est intéressant d'ailleurs dans cette compréhension de la différence quand on nous présente ce sol neutre avec ces lignes lumineuses qui sont projetées quand c'est nécessaire pour délimiter le terrain, pour que les sportifs ne soient pas submergés par les informations. Ça nous aide aussi à mieux comprendre ce type de handicap. Mais comment justement est-ce qu'on met en place ces adaptations ? Ça nécessite de très bien connaître les difficultés de ces personnes, d'échanger beaucoup avec elles.
Oui, exactement. Ça oblige à penser les environnements en rapport avec la diversité, non pas avec la norme. Alors, on pourrait dire que là, pour le coup, l'exemple est cocasse, puisque les lignes sont surajoutées dans les terrains de sport, justement pour ne pas multiplier les installations sportives et pour que tous les sportifs puissent jouer sur le même terrain. Donc, c'est, j'allais dire, une volonté d'optimiser le matériel et de permettre que des gens divers par leur sport puissent pratiquer dans le même gymnase. En même temps, on le voit, l'information superposée, l'information multiple, eh ben, elle met en situation de handicap, elle produit des obstacles à la participation de certains publics. Et donc là, on a une innovation technologique extrêmement fine qui consiste à dire, eh ben, il faut faire attention à la surinformation parce qu'il y a des gens qui peuvent pas traiter toutes ces informations et de fait, on les exclut. Et je pense que cet enseignement-là, il est plus important que l'adaptation technique à proprement parler. Parce qu'en fait, la question de la surinformation dans nos sociétés et des situations de handicap qu'elle crée à partir des obstacles qu'elle génère pour les gens qui ne puissent pas traiter de l'information, eh ben, elle se pose partout, de manière très importante dans un monde numérisé, dans un monde où il y a toujours 10, 20, 30 informations sonores, visuelles différentes et dans lesquelles, ben, en fait, on crée les situations de handicap des gens qui ne peuvent pas traiter toutes ces informations.
Alors, sur cette exclusion, ces obstacles à surmonter, c'est quand même impressionnant d'entendre que la plupart des déficients visuels sont dispensés de sport. On nous disait conditionnés à ne pas faire de sport, alors que l'école a parmi ses missions celle d'accueillir des élèves en situation de handicap. On voit que le sport, c'est un sujet en soi et qu'il y a vraiment beaucoup à faire encore.
Oui, le cas de l'école est intéressant puisque l'école est un espace fondé sur la norme à proprement parler. Donc, dès qu'on est hors norme, quand on est dans une logique de pédagogie simultanée avec une classe de 30 élèves, l'enseignement est fondé dans sa structure même sur l'élève moyen ou l'élève normal. Alors, l'élève moyen ou l'élève normal dans nos sociétés contemporaines, on s'aperçoit qu'en fait, il n'existe pas. Et que l'école doit faire sa révolution, y compris dans le monde de l'éducation physique et sportive, pour penser des pratiques inclusives, c'est-à-dire proposer des choses qui, d'une certaine manière, mobilisent des gens différents dans leurs capacités, et puis même des gens qui ont des incapacités, mais qui peuvent développer d'autres capacités. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de formation dans le monde de l'école et dans le monde de l'éducation physique et sportive, sans doute beaucoup de matériel à produire et puis aussi à réfléchir les conditions de cette pédagogie simultanée, les difficultés que les enseignants ont aujourd'hui à gérer autant d'élèves, à la fois avec une volonté de gérer la diversité, la singularité, ce qui constitue une contrainte que, évidemment, des enseignants vivent parfois âprement.
Et les difficultés, d'où viennent-elles aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que y a vraiment de la bonne volonté, mais des manques financiers, des manques de moyens auxquels on a du mal à faire face, ou il y a encore une indifférence à laquelle on peut être confronté?
C'est très difficile de répondre à cette question. Il y a des strates de choses qui s'empilent. Je crois que cette indifférence est de moins en moins forte et que le succès des Jeux paralympiques atteste aussi d'une transformation de nos sociétés et de la société française et d'un souci, d'une identification à la différence, à la singularité qui est de plus en plus fort et évidemment de plus en plus fort à mesure qu'on va vers les jeunes générations. C'est le bon côté de l'individualisme contemporain que on s'identifie à la singularité, aux individus dans ce qu'ils sont et dans leurs différences, et que ça produit une sensibilité, une curiosité, une attention tout à fait nouvelle aux situations singulières et aux problèmes qu'elles peuvent poser. En même temps, évidemment, les moyens sont absolument nécessaires et cette sensibilité, elle doit aussi s'éprouver et se développer dans des conceptions, dans des techniques, dans des manières de construire nos environnements sociaux, et ça demande des moyens. En même temps, dans un premier temps, bricoler avec les environnements, que chacun dans ses environnements soit conscient de cette diversité, soit nourrisse ou aiguise ses armes pour penser la manière dont il peut tordre, adapter, ajuster, bricoler les environnements pour ne pas avoir une culture de la norme mais une culture de la diversité. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour les années qui viennent.
Merci Sylvain Ferrez et merci à France Bleu Héros pour son accueil. À quand le sport accessible à tous? Flore Caron signe le grand reportage de cette semaine. Il a été réalisé par Annie Bro. À la technique, Marie-Claire Oumabadi. Au web, Caroline Beneteau. Merci à Sophie Cheblin et à Véronique Lefebvre pour la documentation. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.